France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Fanny Richer et Loïc Antoine. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Noé Chaban. Elle fixe le centre du monde et ses marges, la taille des continents et les frontières. Les cartes ne sont jamais neutres. Au service d'objectifs militaires et politiques, les cartes maîtresses du monde. C'est notre nouvelle série en amont du Festival de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Nous parlions hier des cartes au service du renseignement, le GéoInt. Aujourd'hui, cartographier l'actualité, un enjeu politique, comme le rappelait ici sur France Culture en 2016 Jean-Christophe Victor, présentateur du Dessous des cartes, avant notre chère Émilie Aubry.
Beaucoup de poids et de pouvoir, oui. Oui, c'est tout à fait ça, la carte. On ne mesure pas parce que, à la fois, c'est un outil quotidien, un outil mal connu, c'est un outil absolument passionnant, et puis même un outil esthétique. C'est une question extrêmement, j'allais dire vulgairement, jouissive intellectuellement et importante politiquement.
La carte que vous voyez ci-contre représente pour chaque commune de France la couleur du candidat qui est arrivé en tête dans cette commune. C'est le côté un petit peu trompeur de ces cartes de territoire comme ça. On représente des zones, mais pas des habitants. Donc une petite commune de 50 habitants avec un territoire très large peut apparaître plus grande qu'une ville de 10 000 habitants où il y a beaucoup plus de votants.
Il ne faut jamais faire totalement confiance à une carte, car elle raconte toujours une histoire. Qui réalise une carte a le pouvoir de choisir ce qui sera raconté ou pas.
Imaginons avoir un jour à cartographier une journée de contestation sociale en France. Comment faudrait-il s'y prendre? Comment représenter l'ampleur des manifestations dans les différentes villes? D'abord, sur quels chiffres s'appuyer? Ceux de la police, ceux des syndicats? Ou aller une moyenne des deux? Quel diamètre de référence donner aux cercles qui vont représenter la taille des différents cortèges? 10 000 manifestants à Lyon? Dans l'absolu, est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu? Et quelle couleur choisir? Rouge éruptif ou bleu apaisé? Avec des mots, c'est plus facile. On peut décrire les manifestants qui avancent avec la lenteur de la lave. On peut raconter les hommes et les femmes aux fenêtres qui finalement descendent pour connaître le mouvement du fleuve. Cartographier l'actualité pose pourtant autant de questions que la dire. Il en va du choix des échelles et des symboles comme du choix des mots. Dans les services de cartographie, des journaux, quand ils en ont, la question a été débattue avec passion, notamment en 2015-2016 lors de ce qu'on a appelé la crise migratoire. 1 million de personnes étaient arrivées en Europe par toutes les routes terrestres et maritimes possibles. Comment représenter ces dizaines de milliers de vies? Fallait-il cartographier aussi leurs longues journées d'attente ici ou là, la météo de leur périple, les vies perdues en mer? Et si l'on s'en tenait aux statistiques et aux flux, là aussi la taille des flèches et leurs couleurs pouvaient changer notre perception des choses. Simplificatrices et réductrices, les cartes sont pourtant indispensables pour avoir une vision générale des choses et pas seulement. Comment travaillent les services dédiés dans les journaux? Quelles questions se posent aux cartographes? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Françoise Bauken.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et bienvenue. Vous êtes géographe et cartographe, chargée de recherche à l'université Gustave Eiffel, co-autrice avec Nicolas Lambert de l'ouvrage Cartographia, comment les géographes redessinent le monde chez Armand Collin, paru là il y a quelques jours en septembre. Bonjour Francesca Fattori.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes journaliste cartographe au journal Le Monde, au service infographie qui emploie aujourd'hui quoi, une douzaine de personnes, c'est ça? Est-ce que ça a toujours été le cas?
Pas tout à fait. Quand je suis arrivée au service infographie et cartographie du journal Le Monde il y a 13 ans déjà, il n'y avait pas tout à fait la même quantité de personnes. C'est un service qui a grossi au fil du temps, au fil aussi de la volonté du monde, qui est une volonté pas anodine dans une rédaction de presse, de laisser de la place, de donner de la place à la cartographie. Cartographie qui est présente dans les pages du Monde depuis ses débuts, hein, les premières cartes, elles ont paru en 1945. Et après, il y a aussi une grande tradition de cartographie électorale, parce qu'on est un journal du soir, hein, qui donc peut permettre de mettre en forme les résultats des élections avant les autres. Mais voilà, au fil des années, il y a eu vraiment la volonté de raconter l'actualité, pas seulement les élections, pas seulement localiser des événements, mais vraiment raconter de façon plus approfondie l'actualité qui s'y déroule sous nos yeux à travers les cartes.
Et le journal a plutôt étoffé ses effectifs, donc ce qui n'est pas anodin, puisqu'au tournant des années 2010, plusieurs journaux ont décidé d'externaliser les services infographie pour réduire les coûts. Quelle formation vous avez les uns et les autres dans ce service ?
Alors, on est un service assez divers dans sa composition. Donc, on est tous journalistes cartographes, mais on n'a pas fait d'école de journalisme, forcément. Il y a des profils qui viennent plutôt de la géopolitique, de la science politique, de l'histoire, comme moi, par exemple. Il y a aussi des collègues qui, eux, ont fait de la géographie, après de la géomatique, de la cartographie, avec des masters très, très pointus, très, très spécialisés. Il y a aussi des illustrateurs et illustratrices scientifiques qui ont fait, par exemple, l'école Estienne. Aussi, il y a des développeurs. Donc, très divers.
Vous êtes plutôt spécialisé dans la cartographie internationale avec un prisme sur les migrations, puisque vous avez commencé une thèse sur le sujet et on en parlera tout à l'heure avec toutes les deux, parce que la façon de cartographier les mouvements migratoires et les parcours de migration, ce n'est pas du tout anodin. Encore un tout petit mot sur votre métier. Le rythme auquel vous devez produire des cartes pour le quotidien, ça se décide chaque matin en conférence de rédaction en même temps que les textes, ou le rythme est un petit peu différent?
Alors, le rythme est très varié aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a toujours une conférence de rédaction où sont décidés les sujets pour le journal print du lendemain. Mais aujourd'hui, nos lecteurs, ils nous lisent avant tout sur le web, sur le site internet, sur l'ordinateur, les téléphones. Et donc, il y a un flux d'actualité incontinu qui fait que on produit les cartes selon différentes temporalités. Il y a la carte qui doit paraître dans l'heure qui suit l'événement, donc ultra chaude pour, par exemple, le site internet, voire les lives qui racontent l'actualité en continu sur certains sujets spécifiques. Je pense par exemple à la guerre en Ukraine ou à la guerre qui se déroule à Gaza. Et après, on prend... donc ça, c'est vraiment l'ultra chaud. Après, on peut avoir quelques heures, voire une journée pour préparer la carte pour le journal du lendemain. Et des fois aussi, on prend le temps, et c'est le cas par exemple des grandes pages de cartographie géopolitique où on a beaucoup cartographié les migrations, où on prend vraiment le temps descendre à des échelles plus fines, ou de raconter les choses avec en prenant plus de hauteur, en fait. Et ça peut prendre quelques jours.
Et parfois, en vous aidant aussi du travail des chercheurs que vous invitez même à la rédaction, ça arrive pour co-écrire, co-produire des cartes. Vous nous en parlerez. Alors, Françoise Bauken, vous êtes vous aussi cartographe, mais vous n'avez pas eu à travailler dans ces situations d'urgence, me semble-t-il, en tout cas pas récemment. Mais en revanche, vous entretenez un regard critique sur votre propre discipline ou surtout ses mésusages. Prenons un ou une cartographe devant une feuille blanche. Comment construire une carte pertinente et intelligible en fonction des données dont on dispose? D'abord, est-ce qu'on cartographie toujours à partir de chiffres?
Alors, il y a différentes approches de la cartographie, mais moi je suis dans une approche plutôt scientifique de la cartographie. Je suis en géographie quantitative, donc l'information que je vais disposer pour réaliser une carte est toujours mise dans un tableau, qu'elle provienne de données d'enquête, de relevés de terrain, ou même d'entretien avec une retranscription littérale. Moi je mets personnellement toujours mes données dans un tableau, donc ça c'est pour la partie information statistique, et puis mes données géographiques sont également d'une information géographique qui est elle-même enregistrée dans un tableau associé à un aspect graphique de points, lignes et polygones.
Alors, puisque vous travaillez à partir de chiffres, vous expliquez vous-même dans votre livre avec Nicolas Lambert que les chiffres eux-mêmes n'existent pas à l'état de nature, que toute donnée est une construction sociale réalisée selon une méthode spécifique, dans un but et pour un usage particulier. Donc, par exemple, l'exemple que j'ai cité en début d'émission et sur lequel vous revenez dans votre livre, cartographie des manifestations, comment vous faites? Quels chiffres vous prenez?
Ah voilà, donc tout est dans le sujet de la carte. Une carte résulte toujours d'une intention de communiquer une information de manière cartographique à un public donné. Donc quelle est l'information que l'on va mobiliser? Donc tout dépend de qui parle. Effectivement, est-ce que l'on prend les chiffres du ministère de l'Intérieur? Est-ce que l'on prend les chiffres des organisateurs des manifestations? Quoi qu'il en soit, la carte résulte toujours d'une intention. de représenter d'une certaine manière un phénomène. Et comme c'est un document graphique, le choix des signes graphiques va être très important et surtout ce que l'on appelle en cartographie leur sémiologie. Donc tout l'enrichissement sémantique des signes qui vont permettre de transmettre le message de manière instantanée.
Par exemple, est-ce qu'on utilise un même procédé cartographique ou graphique pour cartographier une densité de population et le produit intérieur brut ?
Non, alors ça c'est concernant donc les données statistiques, en fonction de leur format, elles sont qualitatives, quantitatives, nominales, et puis lorsqu'elles sont quantitatives, elles décrivent soit des effectifs, des quantités de population ou des nombres de manifestants, soit des ratios ou des rapports, et elles sont plutôt continues, elles ont aussi une composante d'échelle. Donc en fonction du format des données archivées dans le tableau, quantitatives ou qualitatives, on va appliquer des variables visuelles qui vont être différentes. Certaines variables visuelles sont plus adaptées aux données qualitatives, par exemple la couleur politique des manifestants, alors que d'autres vont être plus adaptées aux données plutôt quantitatives discrètes, par exemple, tout ce qui concerne la représentation des effectifs dont vous parlez, en fonction du signe graphique. Est-ce que je vais prendre un cercle, un carré, un petit bonhomme, etc. Et quel est le rapport de proportionnalité que je vais mettre entre la donnée enregistrée dans mon tableau, le nombre de manifestants, et la taille graphique du signe que je vais utiliser? Donc si j'utilise par exemple un petit bonhomme pour sortir du cercle ou du carré, ce petit bonhomme ou la surface de ce petit bonhomme devrait être proportionnelle. En fait, il y a aussi il y a un certain nombre de principes liés à la perception visuelle des signes qui sont fondamentaux dans une pratique scientifique de la cartographie.
Ce qui est passionnant dans le choix qu'on a à faire, parce que, mettons, il y a 10 000 manifestants à Bordeaux, la question que vous posez dans le livre, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup par rapport... C'est un chiffre qui en soi ne veut rien dire, donc le point de départ de la taille du diamètre des ronds, voilà. Qu'est-ce qu'il dit de l'intention de la personne qui cartographie ces manifestations? Est-ce que ça veut dire, Francesca Fattori, qu'il y a une ligne éditoriale des cartes, comme il y en a une, enfin dans les journaux, le Monde a une ligne éditoriale et les cartes répondent à la ligne éditoriale du Monde, de la façon de les faire?
C'est clair que chaque carte, comme le disait Françoise, a une intention en fait. Le choix de l'angle, de la projection,
du cadre, même découper un fragment d'espace au sein d'un continuum, ça n'est pas rien comme choix.
Exactement. L'échelle à laquelle on se pose, c'est vraiment un choix qui est fait en conscience. Et donc, oui, il y a toujours il y a des choix éditoriaux derrière tout cela. On peut dire qu'on est engagé de la même manière qu'un rédacteur qui écrit son papier, on suit une ligne éditoriale des valeurs qui sont portées par notre journal. C'est la même chose pour nous en tant que journaliste cartographe.
Françoise Bauken, dans Cartographia, vous citez le géographe américain Marc Monmonier qui, au début des années 90, dans son livre « Comment faire mentir les cartes », déclare dès l'introduction « Une bonne carte énonce une multitude de petits mensonges. Elle déforme la vérité pour permettre à l'utilisateur de voir ce qu'il doit voir. Les pieux mensonges sont des éléments essentiels du langage cartographique. Non seulement le mensonge est facile, mais il est essentiel. Est-ce que, de quel mensonge parle-t-il ? Est-ce que tous les cartographes sont des petits menteurs, de pieux menteurs, comme il dit ?
Alors c'est vrai que l'objectif en fait de véracité de la carte, lié au fait de la carte scientifique, hein, j'insiste toujours, lié au fait que c'est un instrument de savoir, de connaissance sur le monde qui a mobilisé des dispositifs de mesure, de traitement et d'analyse, est souvent et de plus en plus questionné au regard de la notion de mensonge. Parce que ce que l'on voit sur une carte, qui est une infime portion de l'espace qui nous entoure et qui en plus qui a été traité, modélisé, ne correspond pas à la réalité que l'on observe soi-même. Mais ce n'est pas la carte ne peut en aucun cas retranscrire, même partiellement, la richesse de la réalité. Elle fait toujours l'objet de choix. Et ça, c'est un véritable enjeu que le pouvoir de la carte, en fait, qui découle de cette notion de savoir. Et la question du mensonge est aussi liée au fait que la carte vise depuis les origines à une sorte d'objectivité, même si elle ne peut pas être totalement objective, dans la mesure où elle mobilise tout un arsenal de méthodes, de principes, de réalisations. Elle vise à l'objectivité. D'ailleurs, en science, hein, la carte peut d'ailleurs faire valoir de preuves. L'élaboration d'une carte qui intervient à la fin d'un processus de recherche permet de décrire, bon, permet de localiser, mais permet de décrire, permet d'expliquer par l'image pourquoi tel phénomène est comme ceci à tel endroit ou quel autre. Donc, cette image que l'on donne à voir à un public particulier, hein, celui des médias, des étudiants ou le grand public, résulte toujours d'un raisonnement qui est scientifique, alors des sciences dures, des sciences humaines et sociales, après on peut discuter, et qui donne toujours lieu à une représentation donnée du monde. Alors, en fonction de l'endroit où on se place, la représentation du monde va, ou la vision du monde va différer en fonction de l'échelle, et c'est pour cela que l'on parle de mensonge, qui est peut-être plutôt des petits, c'est ce qu'on dit dans cartographia, on l'a dit, parce qu'on a eu beaucoup discuté sur cette notion de mensonge avec Nicolas Lambert, et justement, il y a une petite section où on parle plutôt de petits arrangements entre amis, parce que c'est vraiment ça, la cartographie, c'est s'arranger avec l'information que l'on a, le public, la manière de le dire.
Et ça dépend aussi, pardon, de l'objectif de la carte et de ce qu'on souhaite mettre en avant. Par exemple, vous faites une carte qui parle de la répartition de la population mondiale. Est-ce qu'il faut représenter les toutes petites îles isolées, peu voire pas peuplées ? Petites îles qui, en revanche, risquent d'apparaître et bien visibles s'il s'agit cette fois de réaliser une carte ou des territoires menacés par la montée des eaux ou une carte des paradis fiscaux. C'est un exemple que vous donnez. Francesca Fattori, vous vouliez réagir à ce sujet. Est-ce que vous avez l'impression tous les jours de devoir faire des petits mensonges ici et là pour représenter ce que vous voulez montrer ?
C'est qu'on est souvent interpellé sur mais est-ce que vos cartes sont fausses ? Est-ce qu'on peut faire confiance à la carte ? Moi, j'aime toujours prendre cette métaphore de la pelure d'orange.
Oui, Fabrice Argounès nous l'a faite lundi. Voilà. Vous l'avez tout en nos audios. Oui, nous, dans le bureau de Culture Monde, on a carrément pris un citron, on a dessiné quelque chose, on a essayé de voir ce que vous vouliez dire.
C'est ça.
C'est que si on le dessine sur le citron quand il est encore non épluché,
Allez-y. Ça. Vous prenez une orange, donc on imagine l'orange est notre terre. Donc vous dessinez grossièrement un globe, donc avec les continents, et vous pelez l'orange et essayez de mettre cette peau d'orange à plat sur une feuille. Vous verrez, ça se casse ou ça se déforme à un endroit ou à un autre. Vous ne pourrez pas avoir tout ça à plat, comme en fait sont censées être les cartes en deux dimensions.
Donc, ne serait-ce que les contours des cartes, en fait, j'ai même appris que c'était aussi pour une question de taille du fichier. À la fin, vous ne pouvez pas enregistrer des dizaines de fichiers où les contours sont tellement fins que le fichier est très très lourd, en fait.
Exactement. On a ce problème très régulièrement. Une petite pensée pour les équipes de l'informatique éditoriale du journal qui souvent nous demandent de réduire le poids de nos fichiers cartographiques.
Ouais. Donc, une carte du métro, par exemple, dans toutes les villes où il passe, rien n'est à sa place, mais a priori c'est plutôt normal, ouais. C'est une question ce qu'on appelle la généralisation. Vous évoquez aussi, Françoise Bauken, la question du maillage d'une carte. Qu'est-ce que c'est un maillage et pourquoi choisir un maillage plutôt qu'un autre ?
Alors là, c'est une grande question. Comme notre environnement est en fait continu, l'environnement autour de nous est continu, pour pouvoir le saisir et le représenter facilement, donc on impose une partition du territoire en logement, en quartier, en communes, etc. Et cette partition du territoire a été initiée assez tôt parce qu'elle permet de gérer le territoire, de l'administrer. C'est plus facile d'avoir un ensemble d'îlots à l'intérieur desquels on va dénombrer la population, les superficies urbaines, cultivées, hydrographiques, etc. Donc la question du maillage, c'est vrai, la partition du territoire qui est d'abord utilisée pour le gérer, l'administrer, puis pour le défendre.
Par exemple, vous posez cette question, pourquoi opter pour une répartition du taux de chômage par région plutôt que par bassin versant ? Pourquoi par bassin versant ? Qu'est-ce que ça changerait ?
C'est un exemple, en fait. C'est un exemple qui est amusant pour dire qu'en France, on parle beaucoup du millefeuille administratif et on a nombre de maillages qui sont régulièrement utilisés. Les plus communs sont les communes, les départements, les régions, mais il existe une foule d'autres maillages qui permettent de saisir de manière plus fine le phénomène que l'on est en train de représenter. Pour travailler, par exemple, sur les zones d'emploi ou sur sur les mobilités domicile-travail sur lesquelles j'ai pu travailler, pourquoi ne pas utiliser les maillages dits en zone d'emploi plutôt que toujours le maillage intercommunal? De la même façon, pour représenter des élections à l'échelle locale, pourquoi agréger les bureaux de vote à l'échelle des communes alors que l'on a une partition en circonscription électorale qui donne d'ailleurs des résultats qui diffèrent de ce que l'on peut obtenir à l'échelle des communes. Et la question du maillage en géographie n'est absolument pas anodine parce que le choix du maillage définit l'échelle géographique d'observation du phénomène, donc l'échelle à laquelle on se place. Sachant que, comme en statistique, il y a un problème d'instabilité du résultat géographique cartographié en fonction du maillage. C'est-à-dire qu'on n'obtient pas le même résultat, la même analyse thématique en sortie selon que l'on observe le phénomène à l'échelle des départements, des communes, des zones d'emploi, des bassins versants, des bassins de vie, etc. Donc c'est très important de se positionner à un échelon donné, à un maillage donné, et de s'en tenir à cet échelon-là dans le cadre de ces analyses.
Francesca Fattori, et je vous remercie, entre parenthèses, d'avoir observé un silence poli quand j'ai dit que j'avais pris un citron pour comprendre comment ça fonctionnait, votre histoire de carte qu'on a planifiée, parce qu'un citron n'est pas rond, donc ça n'a aucun sens. C'était bien une mandarine ou une orange, enfin en tout cas, les fruits diffèrent selon les exemples que donnent les cartographes. Est-ce que ce que raconte Françoise Bauken, est-ce que vous l'entendez, ces débats-là? Vous, je ne crois pas que vous fassiez vous-même des cartes sur les résultats d'élections en France. Votre spécialité, c'est plutôt la politique internationale, mais est-ce que vous entendez ces débats-là au sein de la rédaction?
Oui, absolument. Absolument, et ça a pu m'arriver, même si voilà, je ne suis pas spécialisée sur la cartographie électorale, c'est plutôt d'autres collègues qui tous les ans travaillent d'arrache-pied pour l'élaboration du cahier élection, comme on l'appelle. Mais oui, ça a pu m'arriver de cartographier dans un temps de des résultats pour essayer de dégager certains phénomènes quand voilà, l'équipe qui a fait la nuit électorale se repose, justement. Et oui, tout à fait. Et ce que disait Françoise est très, très, très important, en fait. En fonction du maillage que l'on prend, une même donnée peut donner lieu à des cartes très différentes entre elles. Et justement, après les élections, on essaye toujours de mettre ces données un peu en vis-à-vis aussi, parfois, pour montrer aux lecteurs que voilà, ce qu'on voit, par exemple, au journal télévisé le soir même des élections, une carte, par exemple, à l'échelle des régions, à l'échelle des départements, si on se met à l'échelle de la commune, ça ne donnera pas du tout la même chose. Et aussi, quand on prend, par exemple, la variable du poids démographique de chaque commune, ça donne encore autre chose. Donc, quand on traduit ces cartes-là, on prend donc un maillage d'un certain type et on les rétraduit avec des cercles proportionnels. Pas forcément, on cale ces données non pas sur la géographie des départements, mais sur des cercles proportionnels en fonction de la taille, ça donne encore autre chose, quoi. Donc, oui.
Donc, l'importance de définir à la fois un cadre de la cartographie, le maillage d'une carte, le choix des couleurs, le choix des tracés aussi quand il s'agit de présenter des flux, privilégier une flèche arrondie plutôt que rectiligne, par exemple, ça ne donne pas la même chose.
Je voudrais prendre un moment pour vous montrer le parcours que les personnes en migration effectuent à l'aide de cette carte. Un parcours à la recherche d'un foyer permanent en Europe. Tout commence par la traversée de la mer, souvent dans des embarcations surchargées et impropres à la navigation. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'à la mi-août, quelques 264 500 personnes avaient traversé la Méditerranée cette année. La plupart d'entre elles débarquent en Grèce. De là, leur voyage les mène vers une zone frontalière neutre, ici sur la carte, en Macédoine. Ils reçoivent de l'aide en Serbie. De là, elle se rend en Hongrie. Il est absolument essentiel d'atteindre la Hongrie. Elle fait partie de la zone de l'Union européenne où il n'y a plus besoin de passeport, ce qui facilite l'accès aux nations les plus riches d'Europe. Pour beaucoup, l'Allemagne est la destination finale.
Une présentatrice de la chaîne états-unienne CNN en août 2015 qui expliquait donc à l'aide d'une carte multimédia, on voit des vidéos qui apparaissent derrière elle lorsqu'elle clique sur un pays, le parcours épuisant que beaucoup beaucoup entreprennent à la recherche d'un nouveau foyer en Europe. Alors elle les commente en direct, ça change tout puisque elle fait de ces personnes migrantes des sujets de ses phrases, hein, rien que ça, des personnes à part entière. Néanmoins, quand il s'agit de faire une carte brute que l'on propose à des lecteurs, le traitement cartographique des questions migratoires, c'est une question qui vous intéresse beaucoup toutes les deux. C'est votre spécialité, Francesca Fattori, et aussi la vôtre, Françoise Bahoken, puisque vous êtes aussi membre du réseau Migreurope, qui documente autant qu'il dénonce les conséquences des politiques migratoires européennes sur les droits et les conditions de vie des personnes en migration à toutes les étapes de leur exil. Alors, quelles questions spécifiques pose l'élaboration d'une carte, d'une cartographie sur les flux, les routes, les parcours migratoires ?
Alors, la représentation des parcours migratoires, en fait, participe.
Oui, allez-y.
La représentation des parcours migratoires, en fait, participe d'un processus migratoire qui est complexe, c'est un objet complexe et qui résulte en fait de l'articulation de plusieurs dimensions. Et dès le début, en fait, le sujet est compliqué parce que quand on s'intéresse au processus migratoire en général, on doit arbitrer sur à quel niveau social on se situe, à quel niveau spatial ou à quelle échelle géographique et à quel niveau temporel. Donc, on doit articuler différents niveaux d'observation qui sont soit l'échelle individuelle ou le niveau local, soit l'échelle individuelle, dans ce cas, on va s'intéresser au parcours d'une personne, à sa trajectoire, qui peut être assez fine si les données ont été collectées à partir d'un entretien ou d'enquête fine. Mais on peut aussi s'intéresser à cet individu et à sa parentèle ou à son groupe, le groupe à laquelle, avec lequel il se déplace. Donc on a des données là qui sont un petit peu moins fines, mais quand même assez détaillées pour avoir une visualisation précise du voyage. Mais on peut aussi se placer à un niveau plutôt agrégé, un niveau plutôt macro, qui consiste à observer la répartition de la présence étrangère dans certains pays, qui est en fait un effet de la migration, ou bien la répartition des populations qui partent donc du point de vue de l'origine. Donc, il s'agit donc d'articuler différents niveaux d'observation individuels, de groupes ou agrégés, et ces différents niveaux d'observation correspondent à autant de concepts. Différentes régions du monde aussi. Est-ce que la migration, un détail quand même, parce que la migration, on en parle beaucoup, mais la migration, ce n'est juste qu'un type de mobilité qui consiste à changer de lieu de résidence principale. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ça la migration. C'est un type de mobilité, sachant qu'il y en a d'autres. Donc, quelle est la perspective que l'on va observer ? Est-ce qu'on reste à l'échelle du logement, à une échelle intra-urbaine, urbaine, régionale, au niveau mondial, sachant que la perspective des processus migratoires est en général transnationale.
Alors, par exemple, Francesca Fattori, j'ai imprimé, vous avez chacune sous les yeux des cartes que le monde a produites en 2015, lors de ce qu'on a appelé la crise migratoire. Alors, il y a Schengen, sanctuaire sous pression, la nouvelle géographie des migrants, ça c'est une carte qui se situe à Calais, donc c'est un cas particulier sur lequel on reviendra. Et puis, il y a une journée ordinaire sur la route des Balkans, par exemple. Francesca Fattori, est-ce que vous étiez à l'époque autrice de ces cartes ? Et en tout cas, est-ce que vous pouvez nous aiguiller sur le choix qui a été fait, les choix cartographiques, les choix des couleurs, les choix des tailles des flèches aussi, et même leur forme, enfin tout ça se réfléchit vraiment très en amont et très finement.
Oui. Effectivement, entre 2015 et 2016, on a beaucoup cartographié la question migratoire, parce que voilà, on était avec des flux très nombreux qui venaient
qui arrivaient en Europe,
des Balkans, voilà, en Europe, depuis la Syrie, depuis l'Irak, via la Turquie, la Grèce, etc. Et donc, on a beaucoup cartographié ce phénomène, toujours en essayant de varier à la fois les échelles et aussi les points de vue. C'est-à-dire que on pouvait nous demander au niveau de la rédaction de réaliser une carte sur les flux migratoires, donc la quantité de personnes qui rentraient en Europe. Ça, c'est un type de carte très statistique, très froide, mais ça n'est qu'un aspect de la migration. C'est un aspect qui occulte les vécus individuels des personnes qui traversent, le vécu des pays et des villes, comme par exemple Calais, qui voit arriver une migration qui change la géographie de la ville. Donc oui, on a essayé de varier ces échelles et Oui, j'étais pas forcément l'autrice de toutes les cartes, enfin en tout cas co-autrice, parce qu'on est toujours plusieurs à travailler sur une carte, sur une grande page comme ça. Mais oui, il y a toujours eu des choix à la fois sur l'angle. Par exemple, là, la carte Une journée ordinaire sur la route des Balkans, bah, pour réaliser cette carte, on avait décidé de donner à voir à nos lecteurs ce que pouvait être le voyage d'un migrant, d'un homme et d'une femme qui essayait de rejoindre l'Europe à un instant T. Donc on avait pris une journée. Donc c'était le 14 mars 2015 et on avait essayé de montrer quels étaient tous les obstacles, mais très très concrets, hein, la question de la météo, la question des températures, la question des points d'entrée, là où il y avait une barrière de barbelés qui par exemple avait surgi dans la nuit parce que au fil de toutes ces arrivées, certains pays comme par exemple la Croatie ou comme la Serbie qui au début étaient plutôt ouverts parce que ils voulaient que justement les migrants passent sans s'attarder sur leur territoire. Et ben, il y avait un effet domino où une frontière se fermait, et après la suivante, etc. Donc on avait essayé de donner à voir à nos lecteurs qu'est-ce que pouvaient être concrètement les problèmes que ces personnes se trouvaient à affronter.
Vous avez cartographié les risques de noyade, les risques de forte pluie, les risques sanitaires, tout est dans le détail cartographié, et l'effet, Françoise Bauken, le résultat est totalement différent de cartes qu'on a pu voir par ailleurs à l'époque avec des grosses flèches rouges partant des pays du sud de la Méditerranée et même de l'est de l'Europe et arrivant vers l'Europe en général et l'Europe de l'Ouest aussi plus particulièrement. L'effet n'est pas le même, mais les deux cartes sont entre guillemets, enfin tous ces modèles sont justes, mais l'effet est très différent.
Oui, l'effet est très différent parce que justement ça dépend de la composante que l'on a sélectionnée. Et puis un autre élément d'ordre théorique aussi, c'est est-ce qu'on s'intéresse aux migrants, qui est la personne qui se déplace, ou est-ce qu'on s'intéresse à ces migrations qui sont en fait les déplacements effectués par un migrant sur un espace ou sur une période. Donc les termes de migrants et de migration sont déjà deux concepts différents qui ne vont pas être représentés de la même manière et qui ne vont pas dire la même chose lorsqu'ils vont être portés sur les cartes. Les cartes portant sur les migrants peuvent d'ailleurs être co-réalisées avec des personnes en déplacement.
Voilà. Ça arrive qu'on fasse des cartes avec des personnes dont individuellement, à qui on demande quel a été leur parcours dans le détail, jusqu'à savoir combien de temps ils se sont arrêtés à telle frontière, etc., et le cartographier.
Oui, exactement, dans le collectif Migre Europe. Le collectif de cartographes que nous sommes dans Migre Europe, en fait on s'appelle BIC, la Brigade d'Intervention Cartographique. Certains d'entre nous avons collaboré avec des personnes migrantes pour co-réaliser leurs cartes. Alors pas moi personnellement, parce que je ne suis pas directement sur le terrain et en prise avec ces questions, mais j'ai pu participer à retravailler les cartes qui ont été en première intention réalisées par des migrants. Alors effectivement, les migrants, donc ils sont à leur échelle individuelle, ils sont égocentrés, ce qui est tout à fait normal, et ils décrivent très finement, avec plus ou moins de précision en fonction de leur mémoire et de ce qu'ils souhaitent.
Voilà, ça a occasionné ces débats-là.
Voilà, il y a un effet mémoire très important lié à la dureté, la pénibilité, le ressenti sur leur voyage et leur séjour aux différents points de passage. Il y a beaucoup, tout un tas de phénomènes, de processus sociaux et humains qui rentrent en compte dans la manière dont ils vont retranscrire leur discours, dans la prise de notes qui va être réalisée par le chercheur et dans la manière dont nous, ensuite, on va s'en emparer pour les représenter. Alors, effectivement, quand on est à l'échelle individuelle, on a une approche beaucoup plus fine que lorsqu'on est à l'échelle macro, qui consiste à regarder quelles sont les personnes qui ont pu arriver depuis la route des Balkans ou d'autres routes en Europe. Je voudrais juste évoquer ces fameuses cartes dont vous parliez avec des flèches rouges. En fait, elles ont posé un très très gros problème de positionnement.
C'est-à-dire, allez-y, vous vouliez en parler, parce que votre collègue Nicolas Lambert avait par exemple écrit un billet de blog, une carte à abattre, où il parlait d'une carte produite par, je crois, un laboratoire d'idées norvégien, si je ne m'abuse.
Un bureau d'études, oui, c'est l'agence Lucify. Oui, cette carte sur la migration, la migration syrienne, la carte dite Lucify, à laquelle nous avons aussi dédié collectivement un article de fond dans la revue européenne de géographie Cyberjo. Effectivement, cette carte-là, comme d'autres, pose la question des outils mobilisés pour cartographier aujourd'hui les migrations, sachant qu'il y a déjà des problèmes d'ordre conceptuel et méthodologique qu'on a évoqués.
Une carte sur laquelle seuls les flux vers l'Europe sont représentés, alors que la majorité des mouvements de population ont eu lieu entre les pays du Sud. Sur la carte, la Turquie est représentée comme un pays émetteur, entre guillemets, de migrants et non comme un pays d'accueil. Et pour les choix graphiques utilisés sur cette carte, on voit des mouvements de population, donc les demandeurs d'asile, représentés par des petits traits qui se déplacent des pays de départ vers les pays d'arrivée. Oui. Et Nicolas Lambert dit que cette sémiologie graphique décrit par son mouvement, un flux migratoire en continu qui ne se tarit jamais jusqu'au débordement. L'allégorie de la fuite d'eau qui avait été notamment employée par des responsables politiques avec des tracés rectilignes alors que les routes sont sinueuses et les réalités sont plus sinueuses également. Francesca Fattori.
Oui, alors pour reprendre cette idée des trajectoires individuelles, il y a une autre carte aussi qu'on avait réalisée pour le journal où là effectivement on avait suivi le parcours, enfin on avait retracé plutôt, pardon, le parcours de six jeunes hommes qui étaient soudanais et érythréens qui s'étaient rencontrés dans le lycée Jean Carré au moment où il y avait justement il avait été investi par des jeunes migrants et migrantes qui manquer de lieux d'accueil en 2015-2016. Et donc, on avait retracé leur parcours du Soudan ou de l'Érythrée jusqu'à l'Europe. Et là, par exemple, on avait fait le choix d'incarner leur périple, non pas par des flèches droites, schématiques, comme par exemple, on l'avait fait pour la carte de la route des Balkans que je décrivais vraiment tout à l'heure, où là, on était très schématique. Il s'agissait de montrer voilà les embûches sur le chemin, la météo, les risques de noyade, etc. Donc on avait fait vraiment quelque chose de très schématique. Pour raconter les parcours migratoires de ces jeunes hommes, on avait choisi plutôt de dessiner des traits très fins, comme des fils en fait, des fils où on voyait que au gré des refoulements, au gré des dangers, ça faisait comme des pelotes qui s'est dénouées, mais effectivement, comme le disait Françoise aussi, dessiner parfois des flèches très droites pour montrer la migration, c'est très trompeur parce qu'on a l'impression, comme nous on le ferait quand on prend un avion par exemple pour aller d'un point A à un point B, on peut faire une flèche comme ça. C'est pas la même chose quand on est dans un parcours migratoire comme celui qu'on a décrit dans nos cartes.
Vous essayez aussi vous l'avez fait pour Calais, la ville de Calais en 2015 quand il s'est agi avec d'autres cartographes du monde. Vous êtes vraiment allé sur le terrain pour comprendre ce qui se jouait, pour raconter aussi une ville d'une certaine façon barricadée. Et sur votre carte apparaissent et les pays d'origine des migrants, le nombre de migrants estimés par squat ou campement, l'auto-démantèlement des squats et les flèches vers la zone vers laquelle la zone d'installation non viabilisée mais tolérée par la municipalité vers laquelle ils se dirigeaient. C'est une carte qu'il faut regarder avec attention. Bien sûr, c'est une lecture qui ne souffre pas l'approximation. Il faut être très attentif pour la lire. Disons que peut-être toutes les cartes se complètent. Même cette carte-là ne va pas jusqu'à raconter jusqu'au sac de couchage et aux vêtements qui sèchent ou le démantèlement du campement dans le creux de la nuit lors d'évacuations données à des gens qui étaient au milieu de leur sommeil pour le démantèlement de la jungle. Peut-être un tout petit mot de conclusion de cette première partie, Françoise Baouken. Est-ce qu'il y a un manuel du bon cartographe ou un manuel du bon lecteur de cartes? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quelles sont les choses trappes que nous, lecteurs, devons savoir ou éviter quand on lit une carte?
Je pense qu'il faut avoir un œil critique, savoir comment elles sont réalisées. Donc, en fait, c'est assez facile de... avec Cartographia,
avec votre livre,
de s'en sortir. Donc, je pense qu'il faut avoir un œil critique et aussi une carte. Et certaines cartes jouent sur les émotions. Il y a un aspect très important dans la rhétorique de la carte qui est l'aspect émotionnel. Et moi, je dis souvent qu'une carte qui nous bouscule, qui nous perturbe, qui a des traits ou des couleurs trop saillantes, pose question. Parce que c'est justement, on a voulu jouer plutôt sur des ressorts sensibles et non pas rester au plus près de l'information, quelle qu'elle soit et quel que soit son niveau.
She
Le groupe REM et sa chanson Maps and Legends, des cartes et des légendes ou des mythes, il joue sur le double mot. Peut-être que ces cartes et ces légendes ont été mal comprises, dit-il. Plus loin, la route se divise. Décris-moi les endroits que tu as vus. Ceux qui savent ce que j'ignore se réfèrent au jaune, au rouge et au vert. Cartographier l'actualité, un enjeu politique. C'est le troisième épisode de notre série consacrée au pouvoir des cartes. En Asie du Sud-Est, on connaît bien cet enjeu politique des cartes, symbolisé notamment par la ligne dite à 9 traits qu'aime à dessiner la Chine.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Voici donc l'histoire de la ligne à 9 traits. Après la Seconde Guerre mondiale, les îles Nansha, autrefois occupées illégalement par le Japon, sont revenues à la Chine. Après cela, la Chine a publié une carte indiquant au monde que les îles Nansha étaient revenues dans la juridiction chinoise et elle en a précisé les emplacements géographiques. Je pense donc que la ligne a posé les fondements, réglementé et réaffirmé la souveraineté de la Chine sur ses îles et ses récifs en mer de Chine méridionale.
C'est une ligne en pointillé qui dessine une sorte de langue de bœuf au sud de la Chine, en mer de Chine méridionale. Elle longe à l'ouest les côtes du Vietnam, vient caresser plus au sud celle de la Malaisie, remonte en direction des Philippines, qu'elle contourne par l'ouest et remonte encore jusqu'à Taïwan, qu'elle ne contourne pas cette fois mais englobe. Pour vous donner une idée de cette ligne à 9 ou 10 traits selon les années, bonjour Laurent Gédéon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence en géographie à l'ENS Lyon. Alors j'ai décrit cette ligne de façon assez grossière, mais est-ce qu'elle l'est moins que ça en vérité? Est-ce que la Chine a en quelque sorte défini les coordonnées de chacun de ces 9 tirets, 10 en incluant celui qui englobe désormais Taïwan?
Non, la Chine n'a pas défini clairement en fait le tracé. On voit d'ailleurs que ce tracé varie à la marge selon les cartes qui sont publiées. Donc il s'agit en fait d'une représentation et d'une marque de souveraineté, mais qui n'est pas cartographiable de manière extrêmement précise.
Donc elle n'a pas donné d'éléments géographiques précises, notamment pour indiquer les distances entre ce qu'elle estime être ces 9 tirets en mer de Chine méridionale. Donc c'est une zone qui, d'après les autorités chinoises, ça couvre à peu près 90% de la mer. D'après les autorités chinoises, est-ce que c'est une zone qui relève de la souveraineté de la Chine ou de son influence ?
La réponse n'est pas évidente, parce que si l'on s'en tient en fait aux arguments juridiques, la Chine a publié différents textes qui ont une valeur juridique, et notamment un qui est assez connu, qui est celui de la loi sur la mer de Chine, sur la mer territoriale et la zone contiguë. Donc cette loi remonte au 25 février 1992, dans cette loi, la Chine définit un certain nombre d'îles qui font partie de son territoire. Et ces îles sont listées, c'est notamment Taïwan, les îles Senkaku, les îles Pescador, Pratas, Paracel et Spratley. Donc ces îles sont explicitement citées, mais l'espace maritime qui les relie est implicite. Donc on ne peut pas dire que de manière explicite, la loi chinoise dise que c'est une mer territoriale. Mais toutes les postures de la République populaire de Chine par rapport à cet espace laissent entendre que c'est considéré par la Chine comme une mer qui est une mer territoriale.
Mais alors si c'est implicite, comment les États qui contestent ce tracé, que ce soit le Vietnam, les Philippines notamment, comment font-ils si encore une fois ce tracé ne fait l'objet d'aucun texte officiel, si tout ça est implicite, eux comment s'en défendent-ils quand ils vont notamment devant les instances internationales pour contester cette ligne des neuf traits. D'ailleurs, Pékin ne parle pas de ligne des neuf traits, mais de ligne discontinue.
Oui, absolument. La stratégie des États varie. Les Philippines s'appuient de manière très stricte sur le droit international qui stipule, on le sait, que les pays ont droit à une zone économique exclusive. Donc les Philippines considèrent qu'une partie de l'espace qui est revendiquée par la Chine empiète sur leur zone économique exclusive et ont d'ailleurs saisi la Cour permanente d'arbitrage sur cette question qui s'est prononcée en leur faveur en 2016. En ce qui concerne le Vietnam, c'est plus ambivalent puisque le Vietnam également se rattache au droit international. Donc insiste sur le fait que la Chine ne doit pas empiéter sur sa zone économique exclusive, mais en même temps, les revendications du Vietnam vont au-delà de sa zone économique exclusive, puisque le Vietnam revendique aussi l'archipel des Spratleys. Et les arguments vietnamiens, comme d'ailleurs les arguments chinois, sont à ce moment d'ordre plutôt historique.
Alors, j'ai cru comprendre également que Taïwan se revendiquait aussi de cette carte. Alors, peut-être plus depuis 2013, quand le dixième tiret est apparu, qui sur la carte l'englobe, en fait, dans cet espace de souveraineté ou d'influence de la Chine. Mais que, jusqu'à présent, Taïwan s'en revendiquait. Pourquoi ?
Oui, Taïwan s'en revendiquait pour une raison, en fait, tout à fait logique. C'est que la République de Chine considère que, même repliée sur l'île de Taïwan, elle représente la légitimité de la Chine dans son ensemble. Et donc, toutes les revendications territoriales portées par la République populaire de Chine sont, en fait, celles qui sont également portées par la République de Taïwan dans sa posture de défense des intérêts chinois.
Donc pas par tous alors à Taïwan, c'est une position politique à Taïwan que de défendre cette carte-là, parce que cette cartographie, elle précède l'arrivée au pouvoir des communistes en Chine et donc de la chute du Kuomintang. En quelque sorte, c'est Chiang Kai-shek qui en est l'auteur de cette carte, puisque c'était juste avant l'avènement de la République populaire de Chine et avant sa fuite à lui vers Taïwan, où il crée en 1949 le gouvernement nationaliste en exil. Donc c'est son gouvernement à lui qui en était l'auteur de cette carte. Mais quand est-ce que ces neuf traits ont commencé vraiment à apparaître sur les cartes officielles, dans les atlas ?
Alors, la première apparition officielle, on peut la faire remonter à février 1948. C'est là que le ministère de l'Intérieur de la République de Chine a publié l'Atlas of Administrative Areas of the Republic of China. Donc, l'Atlas des zones administratives de la République de Chine. Et dans cet atlas figure une carte des îles de la mer de Chine méridionale qui reprend en fait une carte antérieure qui avait paru en 1936 dans un atlas qui n'était pas un atlas officiel à l'époque, qui avait été fait par un cartographe très renommé à l'époque, qui était Bai Maichu. Et donc, cette reprise de la carte de Bai Maichu montre que la ligne de la souveraineté maritime de la Chine s'étend quasiment jusqu'à la Malaisie, c'est-à-dire jusqu'au banc James. Et cette carte-là, donc, paraît dans le cadre d'une publication officielle du ministère de l'Intérieur de la République de Chine en février 1948.
Et qui est aujourd'hui sur les passeports. C'est la première carte officielle, elle est aujourd'hui présente sur les passeports des ressortissants chinois. Et nous aussi, on peut la voir, alors presque par erreur, pas dans les atlas, mais dans des dessins animés, puisqu'en 2019, le dessin animé abominable produit par DreamWorks avait été censuré par plusieurs pays de l'Asie du Sud-Est, parce qu'il y avait une scène où on voyait passer cette carte au 9 tiret. En 2023, c'était autour du film Barbie. Donc c'est une carte qui a fait beaucoup parler et a créé beaucoup de conflits aussi diplomatiques entre ces États. Un dernier mot, Laurent Gédéon, pour savoir comment comprendre cette carte du point de vue chinois, cette fois, quels intérêts défend-elle en maintenant cette ligne en pointillé ?
Oui, je pense que du point de vue chinois, il faut considérer que cette carte a trois fonctions. Elle a une fonction juridique, c'est-à-dire qu'elle marque ou qu'elle concrétise un texte juridique qui est la loi du 25 février 1992 dont j'ai parlé. Il y a aussi une fonction politique, c'est que sur la base de cette représentation cartographique, la Chine ajuste ses rapports, qui sont des rapports de coopération mais aussi des rapports de force, avec les États riverains, notamment le Vietnam et les Philippines. Et puis, il y a une fonction géostratégique, parce que cette carte, en fait, marque la revendication de la Chine en tant que puissance maritime montante, et face à une puissance maritime déjà installée, déjà très influente dans la région, que sont les États-Unis. C'est donc pour la Chine une manière symbolique de s'affirmer elle-même en tant que puissance maritime et, espère-t-on à Pékin, un jour une puissance maritime globale.
Merci beaucoup Laurent Gédéon d'avoir été avec nous, maître de conférence en géographie à l'ENS Lyon. Francesca Fattori, quand des États se disputent une souveraineté maritime, comment vous vous en sortez, vous, pour faire les cartes ?
Et bah on essaye de, si on peut, de mettre sur une même carte les différentes revendications. Mais ça donne souvent lieu à un enchevêtrement. Je pense notamment à la zone que vous venez de décrire, donc en mer de Chine méridionale. C'est souvent très compliqué à lire. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est peut-être donner la vision globale pour montrer aux lecteurs que c'est extrêmement compliqué. Et après, faire des plus petites cartes qui montrent le point de vue de la Chine, le point de vue du Vietnam, le point de vue des Philippines, et ainsi de suite.
Vous ne faites pas comme Google Maps, dont on parlera demain, qui là s'adapte en fonction des terrains d'où on consulte la carte.
Ça peut être aussi un choix de montrer que la vision de l'un des acteurs, mais auquel cas on le précise.
La légende est toujours ultra ultra importante. Françoise Bauken, de toute façon, et même quand elles ne sont pas aussi sensibles, les frontières, qu'elles soient terrestres ou maritimes, donnent du fil à retordre aux cartographes, tout simplement parce que les frontières n'ont pas de longueur. Et ça, on l'apprend en lisant votre livre Cartographia. Qu'est-ce que ça veut dire que les frontières n'ont pas de longueur ?
Alors, donc c'est vrai. Les frontières n'ont pas de longueur en raison de la manifestation de cet effet, de cette composante d'échelle dont on parlait tout à l'heure. Donc du fait que les résultats statistiques et ici là les dessins géographiques changent en fonction de l'échelle d'observation. Et en réalité, il y a toute une controverse sur la mesure des tracés de frontières entre deux pays, en fait, qui dépend en fait de qui mesure. Et en fait, ça dépend de l'échelle géographique. Évidemment, à l'échelle locale, dite à grande échelle, on peut avoir une certaine mesure, mais à mesure que une certaine mesure d'un linéaire, mais à mesure que l'on prend de la hauteur, que l'on passe à petite échelle, la mesure va différer parce qu'il y aura moins d'aspérité, moins de précision. Donc ça, c'est vraiment, et ce problème précis, il s'appelle l'effet Openshaw, du nom d'un géographe britannique qui est le premier a mis en évidence cette composante d'échelle géographique. Et là, ce que vient de dire Francesca Fattori, c'est qu'en fait, pour ne pas privilégier la vision d'un seul acteur, ils vont articuler différentes échelles sur un même document. Donc ça permet d'enrichir la carte et de faire fi justement de ces problèmes liés à un seul point de vue, celui d'un seul acteur, ou alors celui d'un unique point niveau géographique d'observation.
Et on apprend en vous lisant qu'à la fin du 19e siècle, un mathématicien, Lewis Fry Richardson, affirmait que plus les frontières des États étaient longues et plus les nations étaient enclines à entrer en guerre, donc encore un enjeu de puissance quand on cartographie, faire le lien entre longueur des frontières et taille des armées, par exemple, c'était son obsession. Mais il a découvert rapidement que des pays voisins comme l'Espagne et le Portugal n'étaient pas d'accord entre eux sur la longueur de leurs frontières communes. Pour le Portugal, elle fait 1214 km, pour l'Espagne 987. Donc c'est lui qui déduit que les frontières n'ont pas de longueur. Et encore aujourd'hui, selon les chiffres que vous regardez, le littoral des États-Unis n'a absolument pas la même longueur. Mais les écarts sont incroyables entre le centre de recherche du Congrès qui l'estime à 19 929 km et la CIA par exemple qui dit 30 455. Donc rien à voir. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Françoise Bauken, co-autrice avec Nicolas Lambert de Cartographia, comment les géographes redessinent le monde chez Armand Collin. Et merci beaucoup Francesca Fattori, journaliste cartographe au journal Le Monde. La responsable du service au Monde, Delphine Papa, sera d'ailleurs présente au Festival de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges le vendredi 3 octobre prochain à 16h pour une discussion autour du pouvoir des cartes. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Après avoir lancé une attaque en règle contre l'ONU et l'Europe, Donald Trump a apporté un soutien inhabituel à l'Ukraine, mais aussi à l'Argentine de Javier Milei.
Un soutien inconditionnel accompagné de larges sourires et d'une poignée de main pour rassurer les marchés financiers fébriles, souligne le quotidien économique argentin Ámbito Financiero ainsi que le journal Clarín. Après une série de revers législatifs et électoraux pour le camp du président ultralibéral Javier Milei, son parti a largement été devancé par l'opposition péroniste dans la province de Buenos Aires au début du mois, et ce scrutin a été considéré comme un test avant les législatives qui se tiendront le mois prochain. Presque à valeur de référendum pour le président libertarien, analyse le Wall Street Journal. Les investisseurs doutent de la capacité de Javier Milei à poursuivre ses réformes ultralibérales, précise le Financial Times, sans compter un scandale de corruption impliquant la sœur du président, doute aussi sur la capacité de l'Argentine, la troisième économie d'Amérique latine, à honorer ses échéances de dette de 4 milliards de dollars en janvier, puis 4 milliards et demi en juillet prochain. Javier Milei confronté à une colère grandissante dans son pays face aux mesures d'austérité draconienne, la pauvreté touche plus de 4 Argentins sur 10, alerte Infobae, soit bien plus que les chiffres officiels. 7 enfants sur 10 en Argentine ne voient pas leurs besoins fondamentaux assurés, rapporte la BBC. Pas assez de nourriture ni de médicaments. Gabriela, une retraitée de 66 ans, explique, elle, à la BBC, qu'elle a dû vendre sa voiture pour payer son assurance maladie privée, qui a doublé depuis que Javier Milei a libéralisé les prix. Érosion des retraites, hausse des factures d'énergie, perte d'emploi, des fonctionnaires notamment, tout cela a fait chuter de 10 points la popularité de Javier Milei, relève le Wall Street Journal. Alors autant dire que le soutien apporté hier par Donald Trump est une bouée de sauvetage pour le président argentin.
Donald Trump vient à la rescousse de son ami en quelque sorte.
Son allié de longue date, titre le quotidien argentin La Nación. Le secrétaire états-unien au Trésor, Scott Bessent, s'est même dit prêt à faire ce qui est nécessaire pour soutenir l'économie de l'Argentine, comme en achetant de la dette souveraine. Si vous suivez de bonnes politiques, si vous êtes en phase avec les valeurs des États-Unis, nous sommes prêts à fournir de l'aide lorsque les choses se déséquilibrent, a déclaré le secrétaire états-unien au Trésor. Javier Milei a le statut de rockstar dans l'univers MAGA, rappelle le Financial Times. Pour son zèle aussi dans les guerres culturelles, pour ses réformes économiques qui sabrent, qui tronçonnent, on le sait, dans les dépenses publiques, jusqu'à fermer des ministères. Fort alignement politique donc entre la Maison Blanche et la Casa Rosada, résume Ámbito Financiero.
Lo que estamos viendo es que lo que no se suponía que podía pasar hace 4 semanas y es que el gobierno llegara a las elecciones del 26 de octubre en medio de una crisis cambiaria.
Il y a un mois encore, on pensait que le gouvernement argentin arriverait aux élections législatives du 26 octobre plombé par une crise financière, par une crise des taux de change, explique le politiste Carlos Pani dans La Nación. Des banquiers à qui il avait parlé se montraient très pessimistes à propos de la politique monétaire argentine, ce qui menaçait donc le résultat des élections prochaines pour le camp Milei. Mais les propos du secrétaire au Trésor aux États-Unis modifient la perspective électorale pour le président argentin, décrit La Nación. À Washington, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren a critiqué, elle, un éventuel plan de sauvetage des États-Unis, affirmant que les contribuables paieraient la facture, et c'est profondément troublant, dit-elle, que des adeptes du libre-marché se soutiennent ainsi. Mais cela ne résout pas dans le fond la situation économique de l'Argentine, prévient le journal Clarín. Si le peso remonte aujourd'hui en bourse, la question est de savoir pourquoi l'Argentine en est arrivée là. Clarín remet en cause la décision de ne pas accumuler de réserves. Et si Javier Milei a gagné une bataille aujourd'hui avec Donald Trump et les marchés, la guerre est plus longue. À suivre donc avec les élections de mi-mandat le mois prochain.
Enfin, Catherine Dutu, la Chine n'apprécie pas une réplique de série sud-coréenne.
Dans la série d'espionnage Tempest diffusée sur Disney+, Ju Ji-hoon, l'une des plus grandes stars de Corée du Sud, incarne une diplomate qui tente de découvrir la vérité derrière un assassinat. Et elle prononce cette phrase, rapportée par l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. Pourquoi la Chine préfère-t-elle la guerre? Une bombe nucléaire pourrait tomber près de la frontière, déclare son personnage dans cette série donc Tempest. Cette scène fictive a eu des des conséquences bien réelles, explique la BBC. Sur les réseaux sociaux, sur Weibo, de nombreux utilisateurs chinois y voient une représentation malveillante et erronée de la Chine comme belliqueuse. Nombreux sont ceux qui appellent désormais des grandes marques comme Louis Vuitton à rompre leur lien avec l'actrice coréenne. Le tollé a également relancé le débat sur l'interdiction non officielle imposée par la Chine au divertissement sud-coréen au K-drama, en vigueur depuis près d'une décennie, depuis la décision de la Corée du Sud de déployer un système antimissile américain. Pékin le considère comme une menace pour ses opérations militaires dans la région.
Merci beaucoup Catherine Dutu.